Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Le Monde Aujourd'hui de ce jeudi 9 janvier 2020. Ravi de vous retrouver au microphone, je suis Irénée Armanongba en compagnie de
Anne Albertson pour vous présenter ce journal dont voici les titres.
Frappes iraniennes en Irak, Donald Trump annonce de nouvelles sanctions contre Téhéran.
Les accords signés entre Ankara et Tripoli sont nuls et sans effet, indiquent des pays dont la France et l'Égypte, opposés à une ingérence étrangère dans la crise libyenne.
Au Tchad, abandon de poursuite contre un responsable d'ONG et un ancien Premier ministre. Nous en saurons davantage dans cette édition.
À l'université de Kinshasa, les étudiants sont priés de déguerpir du campus après de violentes manifestations. Nous en parlerons en seconde partie de cette édition.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la mini-éco, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, une vingtaine de soldats ont été tués et près de 1000 personnes se retrouvent sans abri après une attaque contre une ville du nord-est du pays. Attaque perpétrée par des personnes encore non identifiées, ont déclaré hier deux habitants et une source militaire.
Les assaillants sont entrés à Mongono dans l'état du Borno en se faisant passer pour un convoi de soldats dans la soirée du 7 janvier, ont indiqué les sources. Ils ont ensuite attaqué des troupes déjà à l'intérieur de la ville, détruisant au moins 750 maisons.
Au Tchad, la justice a abandonné les poursuites contre un responsable d'ONG et un ancien Premier ministre qui avaient été arrêtés dans le cadre d'enquêtes différentes. Les précisions de John Lyndon.
L'ancien Premier ministre et actuel secrétaire général de la présidence, Kalsebe Bahimi Debe, a été blanchi par la Cour suprême, selon son avocat Alain Kagombe. Mahamad Nour Ahmed Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, a lui bénéficié d'un non-lieu, selon Jacqueline Moudena, son avocate. Monsieur Bahimi Debe a été écroué le 3 décembre pour détournement des deniers publics, une procédure dénoncée par son avocat. L'ancien Premier ministre à la tête du gouvernement de 2013 à 2016 avait été remis en liberté provisoire le 23 décembre. Le 6 décembre, M. Ibedou, militant des droits de l'homme, a été incarcéré de complicité de meurtre. Son arrestation a été condamnée par la Conférence internationale des barreaux, un collectif d'avocats de 40 pays francophones. Mais selon la presse tchadienne, son inculpation a été liée à la mort d'une adolescente de 14 ans. Nous avons estimé qu'il n'y a pas de charge retenue contre Ibedou et le juge d'instruction a suivi nos réquisitions, a indiqué Gérard Nédéou, premier substitut du procureur de la République, en Djamena.
En République démocratique du Congo, plus de 80% des marchés publics a passé en 2019 dans le cadre des grands travaux du président Félix Tshisekedi ont été conclus de gré à gré selon une étude qui revient sur la mauvaise gestion endémique en RDC.
Le programme des 100 jours élaboré pour répondre aux besoins urgents des Congolais a été géré en violation de la loi cadre régissant les finances publiques, déplore l'Observatoire de la dépense publique à l'origine de l'étude publiée hier. Cette étude constate que les projets lancés ont une valeur de plus de 2 400 milliards de dollars américains, mais qu'à fin septembre 2019, ce programme a connu un paiement avoisinant les 216 millions de dollars américains.
Les présidents russes et turcs ont appelé hier à un cessez-le-feu à Tripoli. C'était à l'occasion d'une rencontre à Istanbul pendant que l'Union européenne promettait à Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, d'intensifier ses efforts pour trouver une solution pacifique.
Dans le même temps, Chypre, l'Égypte, la France et la Grèce ont qualifié hier, nul et non avenu, les accords signés en novembre entre Ankara et Tripoli, dont un qui permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. Des détails avec Jacques Aristide.
À l'issue de leur réunion au Caire, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays ont estimé que ces accords ont sapé la stabilité régionale et sont tous considérés comme nuls et non avenus. Leur homologue italien qui a pris part à la réunion ne figure pas parmi les signataires du communiqué. Deux accords, dont l'un porte sur la coopération militaire, ont été paraphés le 27 novembre dernier par Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, et le président turc Recep Tayyip Erdogan, Erdogan, son principal soutien. Monsieur Erdogan a même annoncé l'envoi de troupes en Libye pour aider le GNA à repousser les assauts des forces du maréchal Khalifa Haftar, appuyé par les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, deux adversaires de la Turquie. C'est surtout l'accord de délimitation de la frontière maritime qui a provoqué une levée de boucliers, notamment en Grèce, en Égypte et à Chypre, car il permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. Les ministres ont fermement condamné les forages réalisés par la Turquie au large de Chypre et pressé Ankara de cesser immédiatement toutes les activités d'exploration illégales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Trump a joué hier à la carte de l'apaisement après des tirs de missiles iraniens sur des bases américaines en Irak. Le point avec Erika Malirakiza.
Le président Donald Trump a annoncé l'imposition immédiate de nouvelles sanctions contre l'Iran. Cependant, il n'a pas évoqué de réponse militaire, éloignant le spectre d'une escalade régionale, voire d'une guerre ouverte entre Washington et Téhéran. L'Iran, en représailles à l'élimination par Washington du général Qassem Soleimani à Bagdad, a tiré mardi nuit sur deux bases américaines en Irak. Au total, 22 missiles sol-sol se sont abattus sur deux bases où sont stationnés des soldats américains. Aucun Américain n'a été blessé, c'est félicité d'entrer le président américain. L'Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour le monde, a lancé le chef de l'exécutif américain. Il a conclu par un message au peuple iranien et à ses dirigeants en disant que les États-Unis sont prêts à la paix avec tous ceux qui la veulent. Il a aussi exhorté les Européens à quitter l'accord sur le nucléaire iranien et s'est entretenu avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique.
Dans le même temps, Washington espère avoir rétabli une capacité de dissuasion vis-à-vis de l'Iran avec l'élimination du général Qassem Soleimani, mais des doutes subsistent sur la volonté et la capacité de Téhéran à contrôler les agissements des milices pro-iraniennes dans la région.
Avec les frappes que nous avons menées contre les brigades du Hezbollah fin décembre et ensuite notre opération contre Soleimani, je pense que nous avons rétabli un certain niveau de dissuasion avec eux, a déclaré hier le ministre américain de la Défense Mark Esper.
L'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, visé par plusieurs procédures judiciaires en France, s'est dit mercredi prêt à se présenter à la justice française s'il était convoqué. Il affirme n'avoir rien à se reprocher. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Si la justice française demande à me parler, je me présenterai. Je n'ai rien à me reprocher. Au contraire, c'est ce que je demande, a martelé M. Ghosn lors de sa première conférence de presse à Beyrouth depuis sa fuite du Japon. Visé par 4 inculpations au Japon, où il est accusé de malversation financière, M. Ghosn fait également l'objet en France d'une enquête préliminaire concernant deux soirées organisées en échange d'une convention de mécénat conclue par Renault. Une information judiciaire pour abus de biens sociaux et corruption a aussi été ouverte en France par le parquet national financier. Toutefois, aucune convocation de la justice française n'a eu lieu pour l'instant, selon Carlos Ghosn. Sur les raisons de sa fuite du Japon, il affirme qu'il veut avoir les moyens de laver son honneur après avoir été victime, dit-il, d'une collision entre Nissan et le parquet japonais. Il a cependant estimé que le premier ministre japonais Shinzo Abe n'était pas impliqué. Il a ajouté n'avoir jamais été traité de manière équitable par la justice nippone.
Chez Ghosn, des preuves qu'il est présent à la justice a réagi le Japon. Pas convaincant, fugitif hors la loi, critique inacceptable. Au Japon, le gouvernement des personnalités mises en cause et les médias japonais ont réagi avec colère aux propos de Carlos Ghosn, lui enjoignant de venir s'expliquer devant la justice nippone s'il a des preuves.
Le bébé d'une migrante africaine est né et décédé à bord d'une embarcation de fortune pendant la traversée entre l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries. Et le cadavre d'un jeune garçon a été découvert à Paris dans le train d'atterrissage d'un avion parti d'Abidjan. Le point avec Ekia Badou.
Le nouveau-né se trouvait à bord d'un canot pneumatique chargé de 43 personnes qui a été localisé au large d'Arrecife, principale ville de l'île espagnole de Lanzarote. Les sauveteurs ont su qu'une femme avait accouché à l'intérieur de l'embarcation et une fois au port, le service d'urgence de l'archipel des Canaries a confirmé le décès du bébé. Trois personnes ont été hospitalisées, dont la mère du bébé décédé, une autre femme enceinte et un garçon de 12 ans. Selon les gardes-côtes espagnols, ces migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont 5 mineurs, avaient pris la mer depuis dimanche. Par ailleurs, dans un autre drame, le corps d'un jeune garçon a été retrouvé hier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il s'était caché dans le train d'atterrissage d'un Boeing d'Air France reliant Abidjan à Paris. Un porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé la mort d'un passager clandestin et a déploré un drame humain. Une source sécuritaire ivoirienne se demande comment un enfant d'une douzaine d'années a pu accéder à un avion. Une enquête est ouverte et permettra peut-être de répondre à toutes ces questions.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco avec Nanit Talani.
Les réserves de change net de l'Afrique du Sud ont augmenté à 44,897 milliards de dollars en décembre contre 44,415 milliards en novembre. Les réserves brutes ont atteint 55,58 milliards de dollars contre 54,893 milliards de dollars le mois précédent. La Mauritanie recevra un prêt d'environ 84,5 millions de dollars de la Chine pour la construction d'un port de pêche à Nouakchott, la capitale. Ce port aura une capacité de 400 000 tonnes de poissons. Il permettra de créer plus de 2300 emplois. L'infrastructure favorisera aussi la création d'un pôle de développement intégré disposant de toutes les installations nécessaires pour le débarquement, la maintenance et la réparation des embarquements et bateaux de pêche, d'après le ministre mauritanien de l'économie et de l'industrie, Cheikh El Kebir Moulay Taher, cité par l'agence Ecofine. Pour terminer, le Maroc compte investir 12 milliards de dollars pour son programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation pour la période 2020-2027. Le plan inclut l'augmentation de l'offre en eau à travers l'édification de nouveaux barrages, la gestion rationnelle de la ressource et la préservation des ressources en eau.
Sera présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Irénée, bonjour à tous.
En football, la fête attendra à Dakar pour le meilleur joueur africain Sadio Mané.
Oui, l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a fait faux bond mercredi à ses admirateurs sénégalais qui attendaient son retour annoncé au pays pour célébrer son sacre comme meilleur joueur africain la veille. Dakar espérait fêter le premier joueur sénégalais à recevoir cette consécration individuelle depuis Eladji Diouf en 2002, un accueil à l'aéroport à son arrivée d'Égypte où il avait été récompensé mardi soir, suivi d'une parade, puis d'une cérémonie en présence du chef de l'État, Macky Sall himself, était inscrit au programme du joueur. Un jet privé devait le transporter des bords de la mer Rouge à ceux de l'Atlantique, mais sa visite éclair a été annulée ou reportée selon les sources. Au dernier moment, Bakary Cissé, un membre de son entourage, évoque un permis de survol de la Tunisie qui tardait à arriver en Égypte à l'aéroport de départ. Liverpool a décidé de ramener son joueur parce qu'il ne peut pas continuer à attendre un permis dont on ne sait pas l'heure de délivrance exacte, a-t-il dit. Voilà, ce n'est peut-être que partie remise.
Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid en finale.
Oui, le Real Madrid a largement dominé Valence 3-1 lors de la Supercoupe d'Espagne ce mercredi à Jeddah en Arabie Saoudite et s'est ainsi qualifié pour la finale organisée ce dimanche. Le Real Madrid a survolé la rencontre et a obtenu son ticket pour la finale. Isco, qui n'avait plus marqué depuis le 31 mars 2019 en match officiel, a lui aussi participé à la fête en débloquant son compteur d'une reprise dans la surface à la 39e minute. Le pénalty marqué par Daniel Parejo dans les arrêts de jeu à la 92e notamment n'a rien changé à l'issue de la rencontre. Il s'agira d'un classico ou d'un derby en finale puisque la seconde demi-finale ce soir oppose le FC Barcelone à l'Atlético Madrid.
NBA Steve Kerr sanctionné de $25,000 d'amende pour injure envers l'arbitre.
Oui, l'entraîneur des Golden State Warriors a été sanctionné mercredi par la NBA pour avoir injurié un arbitre et refusé de quitter directement le parquet contre Sacramento, c'était lundi soir. À la fin donc du deuxième quart-temps, Kerr s'est rendu coupable de deux infractions contre les Kings, perdant ses nerfs lors de la cinquième défaite consécutive des Warriors, dernier de la conférence Ouest.
Restons en NBA avec les résultats du jour. San Antonio a battu Boston 129-114. Toronto a fait plier Charlotte 112-110. Miami a défait Indiana 122-108. Les Wizards de Washington ont plié les Chines devant Orlando 99-123. Houston s'est imposé face à Atlanta, 122-115. Denver est venu à bout de Dallas, 107-106. Chicago a perdu face à New Orleans, 108-123. Utah a disposé de New York, 128-104. Et Milwaukee a battu Golden avec 107-98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irénée Herman Arungbo. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les activités sont suspendues à l'université de Kinshasa. Les étudiants sont priés de déguerpir du campus après de violentes manifestations qui se sont soldées par d'énormes dégâts matériels et des cas de blessures sérieuses parmi les forces de l'ordre et des manifestants. Edi Sango a joint à Kinshasa le porte-parole du gouvernement, le ministre Jolino Makelele.
On a décidé que les étudiants puissent déguerpir le campus. Les cours sont suspendus et ce temps sera mis à profit pour recenser tous les étudiants qui sont en règle et qui le sont effectivement. Cela va regagner dans les jours qui viennent le campus et ceux qui n'auront pas été en règle naturellement ne seront pas autorisés à fréquenter les campus.
Est-ce qu'il y a un bilan de troubles qui ont eu lieu depuis dimanche à l'université de Kinshasa?
Le seul cas flagrant qu'on a eu, c'est celui de la blessure d'un policier, une blessure grave consécutive à un lynchage qui a eu lieu au niveau du campus. Et c'est la raison pour laquelle, parce que nous sommes convaincus que les étudiants avaient vrai, mais ça ne donne pas ce genre d'exercice, et que c'est sûrement des gens qui sont infiltrés, qui n'ont pas la qualité d'étudiant, qui ça donne à ce genre d'exercice. Et la police a interpellé certaines personnes, et il y a aussi les services qui font leur étude pour s'assurer que la situation est calme et que on ne reviendra plus à ce genre de situation.
On parle de deux policiers décédés lors de ces troubles.
Bon, on n'a pas un bilan faisant état de mort au niveau de ces incidents. Il n'y a pas contre un policier grièvement blessé et donc qui est entre la vie et la mort. C'est une nouvelle sûre.
Est-ce que le gouvernement résout les problèmes qui est la revendication des étudiants du rabais de frais qu'ils devraient payer qui ont été revus à la hausse?
Le chef de l'État a décidé lui-même de prendre à bras le corps ce sujet. Il va rencontrer dans les heures qui viennent les représentants des étudiants pour voir dans quelle mesure ce qui avait été convenu entre les étudiants et le corps enseignant a été ou non respecté. Parce que ne l'oublions pas, il s'agit des engagements qui ont été pris entre les représentants des professeurs, les représentants du corps scientifique et des délégués des étudiants. Maintenant, on verra dans quelle mesure cette décision a pu ne pas rencontrer l'assentiment de tous les étudiants, mais tout cela fera l'objet des explications que les étudiants auront à donner au président de la République. Le président de la République avisera après avoir écouté tout cela.
Quand les activités pourraient-elles répondre à l'université de Kinshasa alors?
Ce sera rapidement. Donc là, une fois que la mesure de déguerpissement aura eu lieu, elle est d'ailleurs en train d'être exécutée, et après on fera appel aux étudiants.
Regagner leur logement, mais on sait que les conditions de vie et d'études là-bas sont insupportables. Hein. Je ne sais pas ce que le gouvernement pense.
Là, vous abordez un autre aspect du problème. Donc, c'est petit à petit que nous commençons. Nous commençons par l'enseignement primaire. Vous avez vu que nous avons fait un effort gigantesque. Mettre tous les enfants, y compris surtout les parents démunis, en situation d'être scolarisés.
Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les exilés et réfugiés d'Afrique du Sud se verront retirer leur statut s'ils se livrent à des activités politiques. Ils seront alors traités comme des personnes en situation illégale et dans certains cas immédiatement expulsées. Telles sont quelques conséquences de nouvelles lois en vigueur depuis le 1er janvier en Afrique du Sud. Timothée Donagmaï a joint à Durban Léon Katamboué, ressortissant de la RDC, membre de la Coalition des Congolais pour la Transition.
Ils viennent de sortir de l'apartheid et ils étaient en Angola, ils étaient au Mozambique, ils étaient au Zimbabwe, ils étaient en Zambie en tant que réfugiés et en train de faire des activités politiques. Ils doivent comprendre que l'Afrique est remplie de dictateurs et nous, en tant que réfugiés en dehors de nos pays, nous sommes la voix des sans-voix. quand vous êtes dans un pays où il y a un dictateur, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche. Mais quand vous fuyez, vous êtes à l'extérieur, vous avez cette attitude-là de plaider pour ceux qui sont restés parce qu'ils sont dans le feu. Et toi qui es en dehors du fait, tu peux plaider leur cause. Et lorsque ce pays interdit les activités politiques, c'est inacceptable. D'ailleurs, nous avons déjà amorcé des actions pour voir les avocats des droits de l'homme pour qu'on puisse barrer la route à cette loi qui est déjà promulguée d'ailleurs.
Oui, selon vous, M. Katamboui, comment s'explique cette décision des autorités sud-africaines d'introduire ces lois?
Je ne sais pas, je ne comprends pas parce que pour eux, ils ont généralement intérêt à défendre leurs amis qui sont comme président en Afrique. Je peux donner un exemple ancien. Ils étaient amis à l'ancien président de Zimbabwe, Robert Mugabe. Alors, lorsqu'ils ont vu les réfugiés zimbabwéens en Afrique, ils étaient en train de combattre le régime de Mugabe. Ils n'étaient pas contents parce que pour eux, leur ami était Robert Mugabe. Donc, les gens que nous hébergeons ici doivent se calmer. Ils ne doivent pas faire le bruit pour combattre notre allié, notre ami qui est là-bas. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont les amis partout en Afrique. C'est pourquoi ils veulent maintenant marquer les ressortissants de leurs amis qui sont ici. Mais c'est qu'ils sont contre même les droits de l'homme.
Quel est l'impact de ces nouvelles lois sur vos activités politiques?
C'est terrible parce que vous êtes muselés. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a déjà les processus qui sont amorcés pour voir les avocats afin de combattre cette loi. Sinon, nous allons rester comme les gens dans les prisons. Et nous sommes la voix des sans voix. Alors, les gens qui sont dans nos pays attendent de nous. Et si nous sommes maintenant comme en prison, automatiquement, ils ne seront pas sauvés.
C'était à l'instant Léon Katamboué de la Coalition des Congolais pour la transition, joint à Durban en Afrique du Sud. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le salon de l'électronique de Las Vegas offre chaque année l'occasion de découvrir les toutes dernières avancées en matière de technologie grand public. Arzuma Compaoré est notre envoyé spécial sur place et nous présente ici quelques-unes des innovations de cette année.
La ville de Las Vegas, connue pour ses lumières et ses machines à sous. Et cette semaine, comme chaque début d'année, la ville devient l'épicentre de l'industrie de la technologie mondiale et surtout le terrain d'essai par excellence pour les technologies de pointe et les innovateurs mondiaux. Plus de 4000 exposants et 170 000 participants ont fait le déplacement pour découvrir les nouvelles avancées technologiques. Karen Chouka est la vice-présidente du CES.
Tout le monde veut se servir de la technologie pour être mieux connecté. Cela pousse les compagnies à réaliser que la technologie doit faire partie intégrante de leur mode d'opération.
Présentement avec Monsieur Arnaud Chéreau de la start-up Willow. Il développe ce véhicule, cet engin, c'est un vélo à assistance électrique.
Il fait partie de la délégation française.
Comment l'idée de Willow est venue et puis pourquoi vous avez décidé de venir au CES?
Bonjour Arzuma, merci. Willow, on a pris le meilleur de deux mondes, celui du vélo et de la voiture, le côté compact, agile, économique et écologique du vélo, facile à stationner également, et puis le côté protection aux intempéries, assises confortables, capacité d'emport, connectivité de la voiture. En plus, on a ajouté des panneaux solaires qui lui permettent d'être autonome en énergie en fonction des différents états ou territoires.
Alors l'autre élément qui me plaît beaucoup dans ce vélo à assistance électrique, c'est le fait qu'à l'arrière, on peut transformer le siège arrière en un coffre qui peut transporter tous vos effets, vos condiments, vos vivres par exemple. Plutôt génial, non?
C'est le tout premier CES pour Charmin, la marque de papier de toilette. Elle fait partie des produits présentés par la société Procter & Gamble. La marque introduit sur le marché un robot qui vous apporte un rouleau de papier de toilette à la demande.
Greg Weaver est un chercheur à Procter & Gamble.
Vous êtes sur les toilettes et vous réalisez que vous n'avez plus de papier et personne pour vous aider. Que faites-vous à ce moment? Vous sortez votre smartphone, vous activez votre Bluetooth et vous demandez au robot Charmin de vous apporter du papier, ce qu'il exécute aussitôt.
Plus d'un tiers des participants viennent de l'extérieur des États-Unis, à l'image de la société sénégalaise Dictap Corporation, qui a mis en place une plateforme en ligne SOS Agri afin de venir en aide aux producteurs sénégalais pour qu'ils puissent mieux protéger leur culture et développer leur entreprise.
Maman Dick aussi est cofondatrice et présidente de Dictap Corporation.
SOS Agri, c'est un outil numérique, digital, qui vient au secours des agriculteurs qui rencontrent des problèmes dans leurs champs. Et quand je parle de problèmes, on fait allusion aux problèmes majeurs rencontrés par les agriculteurs, c'est-à-dire les pertes de récolte. Donc nous sommes là pour apporter une solution, pour aider les agriculteurs à protéger leur exploitation.
Cette édition du CES marque également le lancement du Global Tech Challenge, fruit d'un partenariat entre le CES et la Banque mondiale. Ce nouveau concours se concentrera sur trois domaines clés, la santé, les barrières entre les sexes et les technologies qui permettent aux communautés d'être plus résilientes face aux catastrophes et aux changements climatiques. Chaque année, même si on croit avoir déjà tout vu, le salon de l'électronique de Las Vegas nous rappelle que la technologie est en perpétuelle évolution et que c'est cela même son porteur principal. Azuma Compaoré, BOA Afrique, Las Vegas.
De Las Vegas, direction New York, où les interdictions sont officiellement entrées en vigueur, les précisions avec Lionel Gaïma.
Premier sur la liste, les sacs en plastique qui seront interdits dans tout l'État de New York à partir de mars 2020. Des sacs en papier ou en tissu vont les remplacer. Les réactions.
C'est une bonne idée. Ça aide l'environnement. Beaucoup d'États le font déjà. Il est normal que nous fassions de même.
Pour l'instant, c'est plus facile, mais s'ils peuvent cesser de faire des sacs en plastique, ce serait cool.
C'est incroyable. Eh bien, à partir de lundi, je ne vais plus les utiliser.
Le souci de l'environnement qui a inspiré ces décisions est aussi à l'origine d'autres interdictions. Il faudra payer pour se rendre en voiture dans les zones les plus embouteillées de Manhattan, tout en réduisant la pollution. Cette mesure ambitionne également de surmonter le cauchemar de la circulation au cœur de New York. Mais cette loi, qui n'entre en vigueur qu'en 2021, n'est pas du goût de tout le monde.
Non, je déménage à Jersey.
Sans cela, c'est tout difficile. Je ne vais pas payer pour ça. Non, merci.
Les frais continuent d'augmenter. Cela aide la communauté et le quartier.
Des changements également en vue des amateurs de bonne bouffe qui devront dire adieu au foie gras, le conseil municipal de New York a jugé cruel le gavage de canard. À partir de 2022, et malgré la colère des agriculteurs et des restaurateurs, les New Yorkais devront choisir autre chose pour leur dîner. L'interdiction de la fourrure a déchaîné la passion au sujet des manteaux fourrés. Mark Houghton, PDG de la Fédération internationale de la fourrure.
Ces pièges sont approuvés au plan international. Nous avons signé ces conventions internationales. C'est généralement pendant un cycle de 10 à 15 ans que les gens ont un vrai manteau de fourrure.
Michael Dowling est radicalement contre les manteaux fourrés.
Je pense que la fourrure est cruelle, désuète et ne devrait pas être présente dans une ville progressiste comme New York.
Les habitants de Harlem rejettent également cette interdiction, mais pour d'autres raisons. Ils ont écrit au conseil municipal pour souligner l'importance de la fourrure dans la culture africaine-américaine. Environ 80% de manteaux de fourrure américains sont fabriqués dans l'État de New York. Plus de 10 000 personnes travaillent dans ce secteur, y compris des entreprises familiales actives depuis des décennies. Pourtant, à partir de 2020, New York refermera son chapitre sur la fourrure naturelle. Enfin, les émigrés de l'État de New York pourront acquérir un permis de conduire, quel que soit leur statut juridique. Ils ne pourront l'utiliser que pour conduire, pas pour voter ou prendre l'avion. Une autre loi rend obligatoire la vaccination de tous les enfants et étudiants, sauf contre-indication médicale. Elle supprime ainsi toutes les exemptions religieuses qui permettaient à des parents de ne pas vacciner leurs enfants.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la tension entre les États-Unis et l'Iran est montée d'un cran après la mort dans un raid américain en Irak du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran promet de venger l'ancien chef des forces al-Quds, des puissants gardiens de la résolution, et a annoncé dans la foulée qu'il ne respecterait plus ses engagements sous l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. De son côté, le président Trump a indiqué que 52 cibles iraniennes ont été identifiées pour des frappes en cas de riposte. Nous allons évoquer la genèse de la crise entre Washington et Téhéran ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Greg Burns. Merci à Anne Alberson pour le suivi et l'actualité, le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Irénée Armanongo à Washington. Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de VOA Afrique. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.voafrique.com et notre page Facebook VOA Afrique. Au revoir.